Bon, on vit une époque assez étrange.
C'est le moins qu'on puisse dire.
On est littéralement submergé d'informations, on peut tout savoir sur tout, tout le temps.
Et pourtant.
Et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi méfiant, aussi perdu.
C'est un vrai paradoxe.
Et c'est justement ce paradoxe qui nous amène au sujet du jour. On va se plonger dans les modèles économiques de la presse.
Un sujet crucial.
Pour ça, on s'appuie sur une série d'articles vraiment éclairants de Julien Lecomte, de son blog Philosophie, Médias et Société. Notre mission, en gros, c'est de soulever un peu le capot.
Voir comment la machine fonctionne.
Exactement, voir comment ça marche à l'intérieur, qui paie pour l'info qu'on lit, qui possède les journaux et qu'est-ce que ça change au final pour nous.
Et cette question du comment ça marche, elle est fondamentale. Ce n'est pas juste une curiosité technique.
Non, c'est plus profond.
Oui, comprendre l'économie des médias, c'est se donner les outils pour ne plus être un consommateur passif. C'est un peu comme apprendre à lire les étiquettes au supermarché.
J'aime bien l'image.
Ça permet de faire des choix plus conscients, plus critiques. C'est un enjeu d'émancipation, tout simplement.
D'accord, alors commençons par le début. Par cette idée qui semble une évidence pour tout le monde, sur Internet, l'information est gratuite.
Le grand mythe.
On ouvre une page, on lit un article, ça ne coûte rien. Mais ce que Julien Lecomte nous rappelle, c'est que c'est une illusion totale.
Absolument.
Produire de l'info, c'est un coût. Il faut des journalistes, du temps d'enquête, du matériel. Ça me fait penser à cette phrase terrible de Patrick Lhollet.
L'ancien patron de TF1.
Oui, qui avait dit « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible.
C'est brutal, mais ça a le mérite d'être clair.
» C'est ça? Ça met les pieds dans le plat. Si ce n'est pas nous qui payons avec notre argent, alors qui paie et avec quoi?
C'est exactement la bonne question. La gratuité, ça n'existe pas. On paye toujours, mais la monnaie d'échange n'est pas toujours celle qu'on croit. Les articles de Lecomte décrivent bien cet écosystème. Pour y voir plus clair, on peut prendre des exemples concrets de notre quotidien. Vous avez le modèle du service public.
France Télévisions, Radio France.
Voilà. Là, c'est financé en grande partie par l'État, donc par nos impôts, et c'est complété par de la publicité.
Attendez, ça veut dire que si je regarde le journal de France 2, je paye une première fois via la contribution à l'audiovisuel public.
Oui.
Et une deuxième fois en subissant la page de pub juste avant.
C'est une excellente façon de le voir. Une sorte de double péage, en fait.
C'est ça.
Et ce double péage est censé garantir une certaine indépendance vis-à-vis des annonceurs purs et des logiques de marché. À l'opposé, vous avez le modèle presque 100% publicitaire comme TF1.
Là, c'est clair.
Oui, là, pas d'ambiguïté. Notre attention est littéralement la marchandise qui est vendue aux marques. C'est l'incarnation parfaite du « si c'est gratuit, vous êtes le produit
Donc pour résumer, il n'y a pas de repas gratuit. Soit on paye avec nos impôts, soit notre attention est la marchandise.
». Soit on sort la carte de crédit.
Voilà, pour un abonnement. Chaque article qu'on lit a une sorte d'étiquette de prix cachée, c'est ça?
C'est tout à fait l'idée. Et cette étiquette de prix invisible, elle détermine en grande partie non seulement ce qu'on lit, mais aussi comment l'histoire est racontée.
Ah oui.
Entre ces deux extrêmes, il y a des modèles mixtes, comme beaucoup de journaux privés, Le Figaro par exemple. Ils essaient de jongler un peu d'abonnement, un peu de pub et des aides de l'État.
Ils essaient de diversifier.
Oui. Et puis, il y a ceux qui tentent de s'affranchir de ça, comme le site Arrêt sur Image qui vit quasi uniquement de ses abonnés, ou des projets comme Wikipédia qui reposent sur les dons et le bénévolat. Chaque modèle est un pari différent.
Ok, donc le modèle de financement, c'est un peu l'ADN du média. Ça définit ses contraintes, ses libertés.
Totalement.
Mais alors, que se passe-t-il quand cet ADN est contrôlé par une poignée de personnes? Je pense aux cartographies publiées par Acrimed ou Le Monde diplomatique. C'est saisissant.
Ah oui, c'est très visuel.
On voit une dizaine de milliardaires, souvent des industriels de l'armement, du luxe, qui possèdent la quasi-totalité des grands médias français. La question devient très directe. Est-ce qu'une rédaction peut vraiment travailler librement quand son propriétaire est un industriel?
Dont le journalisme n'est pas le métier.
Exactement.
Vous mettez le doigt sur le risque principal, celui de l'uniformisation de la pensée. Quand les propriétaires partagent les mêmes intérêts économiques, sociaux,
forcément,
il y a un risque que leurs médias, même inconsciemment, finissent par refléter un seul et même point de vue. Les articles parlent du point de vue des riches, ou plus subtilement, d'une logique de rentabilité qui va favoriser un discours démagogue.
c'est-à-dire un discours qui ne fâche personne.
Voilà. Qui ne fâche ni les annonceurs, ni le pouvoir. Du coup, le pluralisme, cette idée qu'il faut une multitude de regards pour comprendre le réel, en prend un coup.
Et au-delà de cette uniformisation un peu diffuse, il y a des pressions beaucoup plus directes, des conflits d'intérêts flagrants.
Oui, bien sûr.
L'exemple de la photo de Sarkozy retouchée dans Paris Match pour effacer ses poignées d'amour, ça paraît presque anecdotique, un peu ridicule. Mais est-ce que Julien Lecomte donne des exemples où les conséquences sont plus lourdes ?
Absolument. L'anecdote est révélatrice, mais les enjeux sont souvent bien plus graves. Un des articles cite Le Figaro, propriété du groupe Dassault, qui fabrique des avions de chasse.
D'accord.
On peut légitimement se demander si le traitement des questions de défense et de vente d'armes y est totalement impartial.
La question se pose, en effet.
L'autre exemple marquant, c'est ce que Lecomte appelle l'écrémage, sur Canal+, après l'arrivée de Vincent Bolloré.
C'est-à-dire ?
L'idée est simple. On garde l'épiphytre, les animateurs qui font de l'audience et qui ne dérangent personne.
Le divertissement pur.
Voilà ! Mais on écarte systématiquement les voix qui apportent une critique sociale ou politique plus construite. Les guignols de l'info, certains documentaires jugés trop engagés, c'est une forme de censure économique, en quelque sorte.
C'est subtil, mais efficace.
Et la question de fond, elle est vertigineuse. Un journal peut-il enquêter librement sur l'évasion fiscale si son principal actionnaire est directement concerné ?
Le simple fait de devoir se poser la question est déjà une réponse. On imagine que l'autocensure doit devenir un réflexe.
C'est le danger principal. La pression n'a même pas besoin d'être un coup de fil du propriétaire. Elle devient une atmosphère, une ligne jaune invisible.
Une culture d'entreprise, presque.
Cependant, et Lecomte insiste là-dessus, il ne faut pas tomber dans une vision caricaturale où les journalistes seraient de simples marionnettes.
Ah, ce n'est pas si simple.
Non. Il cite l'exemple de journalistes du Figaro qui, par le passé, ont tenu tête à leur direction pour refuser que leur journal devienne le simple porte-voix d'un parti politique.
Ah, donc il y a une forme de résistance, de lutte en interne, au sein même des rédactions.
Exactement. Les rédactions sont des lieux de tension, de rapport de force. Rien n'est jamais totalement joué d'avance. Mais la lutte est compliquée.
Oui, parce qu'en attendant, la machine doit tourner. Et pour qu'elle tourne vite et à moindre coût, j'ai l'impression que le carburant idéal, c'est le sensationnalisme.
Ah, on y vient.
C'est cette fameuse analogie de l'information fast-food que Cyril Franck, le directeur de l'ESIJ Pro, utilise dans les articles.
Une image très juste.
Oui, ça parle à tout le monde, hein. C'est rapide, ça a un goût de reviens-y, c'est rentable, mais au final, c'est mauvais pour la santé démocratique.
C'est exactement ça. La logique derrière ce fast-food informationnel est purement économique. Produire une enquête de fond, vérifier des infos complexes, ça coûte cher.
Ça prend du temps.
Et ça prend du temps. À l'inverse, relayer un buzz, monter en épingle un fait divers, organiser un faux débat hurlant sur un plateau TV, ça ne coûte presque rien et ça garantit de l'audience.
Le clic, l'audimat.
Le potentiel de monétisation de l'attention prend le pas sur la mission d'informer.
Et le cas d'école, j'imagine, ce sont les chaînes d'infos en continu, celles où l'on voit la même image d'une voiture en feu tourner en boucle pendant une heure.
C'est l'exemple parfait. Leur modèle même, ce flux ininterrompu qui donne la priorité au direct, les pousse mécaniquement vers ça.
Il faut bien meubler.
Il faut meubler 24 heures d'antenne. Lecomte prend l'exemple de la couverture des Gilets jaunes, où BFM TV a pu diffuser plus de 15 heures de direct sur un seul week-end. Le problème, c'est que le direct s'est focalisé quasi exclusivement sur les images de violence.
Ce qui, au final, a complètement noyé les revendications sociales et économiques du mouvement pour ne laisser que le spectacle du chaos.
Précisément. Le spectacle prend le pas sur l'information. Un autre exemple dramatique, c'est la couverture des attentats.
Ah oui.
On assiste à cette course morbide pour être le premier à donner un bilan, quitte à donner des chiffres faux, à relayer des rumeurs.
Ajoutant de la confusion à l'angoisse.
Exactement. Alors que ce moment exigerait au contraire du calme et de la rigueur.
Mais sur le plan éthique, est-ce que c'est tout noir ou tout blanc ? Parfois, un titre choc peut attirer l'attention sur un sujet important.
Vous avez raison, la nuance est importante. Le sensationnalisme n'est pas le mal absolu. Il peut être un hameçon.
Un point d'entrée.
Oui. Le vrai problème, comme le soulignent les articles, c'est quand il n'y a rien après l'hameçon. Quand l'émotion ne débouche sur aucune analyse, aucune mise en contexte.
Aucune réflexion.
Voilà. Quand le spectacle sert juste à nous faire passer le spectacle suivant sans nous avoir rien appris. C'est là que le fast-food devient de la malbouffe.
Bon, le tableau est assez sombre. On a des médias concentrés, une pression à la rentabilité et une prime au sensationnalisme. Est-ce qu'on est condamné ou est-ce que Julien Lecomte propose des pistes, des sorties de secours ?
Heureusement, le constat n'est pas une fatalité. Plusieurs pistes émergent. La première, c'est de changer de logiciel économique.
C'est-à-dire ?
Arrêter de penser uniquement à l'audience du lendemain pour parier sur la confiance et la qualité sur le long terme. Concrètement, ça veut dire encourager la pluralité des sources de financement.
Donc l'idée, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier pour garantir son indépendance.
C'est le principe de base.
Ne dépendre ni uniquement de la pub, ni d'un mécène, ni de l'État.
C'est le principe de la résilience. Un média qui diversifie ses revenus est un média plus libre. Et ça amène à une autre idée forte, repenser les aides publiques à la presse.
D'accord.
Au lieu de subventionner des institutions parfois vieillissantes, pourquoi ne pas conditionner ces aides à la production de contenu de qualité ? On pourrait financer des projets d'investigation, des reportages.
Donc au lieu de subventionner le contenant, on financerait le contenu. C'est une logique de projet plutôt que de structure.
C'est ça. C'est intéressant.
Et au-delà de l'argent, il y a le journalisme lui-même, j'imagine.
Oui, il faut aussi sortir d'une vision monolithique du métier. Le Compte insiste, il n'y a pas un journalisme, mais des journalismes. Il y a l'investigation, le reportage d'immersion, l'analyse de données, le slow journalisme.
Qui prend le temps.
Et la forme peut aussi servir le fond. Une émission comme Cash Investigation utilise les codes du spectacle, mais pour démocratiser des sujets économiques très complexes.
La spectacularisation n'est pas l'ennemi si elle reste au service de l'info.
C'est ça l'idée.
Et nous, le public, dans tout ça, on a souvent l'impression d'être juste des spectateurs passifs.
C'est peut-être le point le plus important. Les articles nous rappellent qu'on a un pouvoir immense, celui de notre temps de cerveau disponible.
Revenir à l'éleil.
Oui. Refuser de donner notre attention à des contenus vides ou trompeurs, c'est les priver de leur unique ressource. Et inversement, choisir de s'abonner à un média indépendant, même pour quelques euros par mois...
C'est un acte citoyen fort.
Incroyablement fort. C'est voter avec son portefeuille pour le journalisme en lequel on croit.
C'est vrai qu'on a ce pouvoir-là. Celui de notre attention. C'est peut-être l'acte le plus simple et le plus puissant.
Il y a une citation de Cyril Franc dans les textes qui résume tout. S'il faut donner au public ce qu'il veut, il faut lui donner aussi ce qu'il ne sait pas encore qu'il veut.
Ah, c'est bien ça!
Le rôle du journalisme, ce n'est pas juste de répondre à la demande, c'est aussi de créer le désir, de cultiver le goût pour une information riche, nuancée.
D'accord. Alors, si on essaie de récapituler. La première chose, c'est que l'info gratuite, c'est un mythe. On la paie toujours.
Exactement. Que ce soit avec notre attention, nos impôts ou nos abonnements. Et ça, ça définit les règles du jeu.
Deuxième point, ces règles deviennent problématiques quand une poignée de grands industriels possèdent tout le terrain de jeu.
Ce qui pose une vraie menace pour le pluralisme.
Et ça nous amène au troisième point, pour survivre dans ce jeu, la tentation du fast-food informationnel, du sensationnalisme est énorme.
C'est facile, c'est rentable à court terme, mais ça dégrade le débat public.
Mais, et c'est la note d'espoir, des solutions existent et elles ne dépendent pas que des journalistes.
Non, ça passe par des modèles économiques plus diversifiés,
des pratiques journalistiques innovantes et surtout par un rôle beaucoup plus actif de notre part en tant que citoyen.
C'est une parfaite synthèse. Et pour finir, j'aimerais laisser une question en suspens.
Je vous écoute.
Les sources de Julien Lecomte citent des études qui montrent que ce qui influence le plus nos opinions, ce ne sont pas tant les médias eux-mêmes, mais nos cercles proches, famille, amis, communautés en ligne.
Intéressant.
Du coup, la question devient, si le fast-food informationnel prospère, est-ce uniquement parce que les médias nous l'imposent, ou est-ce aussi parce qu'ils trouvent un terrain, une société qui est déjà fertile pour ça, qui en redemande et qu'ils partagent? En d'autres termes, la responsabilité de la malbouffe incombe-t-elle seulement aux chefs cuisiniers ou est-elle aussi partagée par les clients qui en font leur plat quotidien ?